La renouée.
Au quartier libre des Lentières, juin 2024.
Ouais, enfin, il y avait ce truc que disait Bertille d'Aragon, du coup, à la fête de printemps aux Lentières, c'est que elle est venue du Japon pour son côté esthétique. Et là-bas, elle pousse sur les pentes volcaniques. Et sa théorie à elle, ou ses recherches, lui ont mené au fait de dire qu'elle est hyper habituée à des sols ultra pollués, des pentes volcaniques où les métaux ressurgissent. Et donc, elle a développé une faculté assez rare parmi le vivant. De pouvoir pousser avec des forts taux de concentration de plomb, de différents minéraux présents en grosse quantité qui rend les sols toxiques pour les autres plantes. Et du coup, c'est aussi en fait une alliée pour les sols pollués. Ici, on est sur un garage auto. C'est probablement en fait que le sol est pollué et du coup. Je ne sais pas à quel point ça rentre dedans, mais c'est une plante qui nous permet en fait de dessiner une certaine forme de phytoremédiation en fait.
Amelia Veitch, anthropologue.
Pour que le milieu soit homogène et représentatif, les phytosociologues ils vont avoir tendance à être volontairement aveugles à certaines espèces qui peuvent être présentes sur le milieu étudié. Notamment les espèces exogènes, qui n'ont en théorie rien à faire là. Ça, ce sont des espèces qu'on dit des échappées de jardin, et dont les graines ont été répandues dans les friches et qui ont poussé là de façon un peu spontanée, mais d'un point de vue écologique, ce ne sont pas considérées... Enfin, ce sont des espèces dites exogènes, invasives.
Et du coup, c'est aussi simple. Pour moi, un peu la richesse de la renouée, c'est que ça remet de l'humus. Et après, on peut aussi choisir de prendre cet humus et de s'en servir, quoi. Ou alors de replanter directement dedans, ou juste laisser faire. Et ça va faire une couche d'humus au fil du temps qui va peut-être amener d'autres espèces. Je sais pas comment ça fonctionne, pas un spécialiste de la renouée, mais j'imagine qu'au bout d'un certain temps, il y a d'autres espèces qui vont pouvoir s'installer ou pas. Parce que c'est vrai que ça étouffe énormément, mais en même temps, si on n'avait pas la renouée, on aurait encore du bitume et rien d'autre, quoi, du coup.
L'ombre couvert végétal, ça évite le pire, quoi, que les sols s'assèchent. Et ça permet le meilleur que ouais, les insectes et la microfaune du sol puissent s'installer. Et petit à petit, ben, la couche artificielle du sol, elle se casse, elle se craquelle. Et c'est fantastique, c'est vraiment un lieu témoin de comment, après le passage des hommes, après le passage d'une chape de béton, qu'est-ce qui peut se passer ensuite. Enfin, on a le temps ici de se rendre compte que c'est possible.
Cette méthode, elle fait preuve de limites et elle a été très critiquée dans les années 80-90 pour plusieurs raisons, bah, notamment parce qu'il y a un fixisme dans les descriptions qui est très important. Ensuite, on parle aussi d'une approche très comptable de la biodiversité. Soit on compte le nombre, soit on regarde la rareté, donc ça devient très nomenclatural et il y a des approches qui sont de moins en moins écosystémiques. Et aussi sur les concepts de représentativité et d'homogénéité, en fait, on va se rendre compte que ça dépend énormément du regard de l'observateur ou l'observatrice, et que ça ne fonctionne pas du tout pour tous les milieux. Et en plus, c'est le moment où la systématique et le déterminisme sont remis en question dans l'écologie, où on considère que le hasard serait beaucoup plus important que ce que l'on croit. Donc la phytosociologie, elle vole en éclats. Mais les gestionnaires d'espaces naturels et beaucoup d'experts naturalistes ne sont pas forcément socialisés à ces critiques épistémologiques et en fait ils continuent d'appliquer la phytosociologie parfois un peu à la lettre Et ce qui va leur permettre en fait d'orienter les choix de gestion en termes de conservation. Donc en fait, ça a une utilité politique et pratique d'utiliser cette méthode.
On se rend compte que même c'est un argument très politique aussi, parce que bon, on se rend compte que c'est des espaces qui ont été en friche quelques années, qui ont été des réserves foncières pour la rénovation urbaine, et c'est une esthétique qui parle pas du tout à tout le monde, c'est sûr. Genre dans l'imaginaire collectif, les friches, c'est des espaces indisciplinés.
J'ai déjà entendu parler de la renouée du Japon, mais je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je sais seulement que c'est une plante envahissante. Pour moi, une espèce invasive est une espèce qui a une croissance et une reproduction rapide, et qui peut recouvrir une grande surface. Elle est en compétition avec d'autres plantes et peut engendrer la disparition d'autres espèces. Je trouve qu'utiliser du vocabulaire tel que « éradiquer » ou « lutter » est très violent pour parler de ça. Les plantes restent des êtres vivants avant tout. Elles sont constamment en mouvement. Je pense qu'on a peur des espèces invasives parce qu'on ne connaît pas suffisamment les services qu'elles peuvent nous rendre et ce qu'elles peuvent nous apporter. On veut protéger les plantes dont on a l'habitude et pour lesquels on connaît déjà les bienfaits. Donc une plante invasive peut vite devenir un risque pour la biodiversité. Selon moi, ces invasions d'espèces sont dues à des facteurs humains, à nos déplacements, au fait que l'on soit toujours en mouvement, et de plus en plus. Finalement, la plus grosse espèce invasive, c'est l'homme. Ophélie, chargée d'opérations paysagères à Bordeaux.